L'homme était allongé sur le lit depuis déjà plusieurs heures. Les lueurs qui pénétraient à travers les barreaux de la fenêtre étaient devenues des rayons de lune. Ces faisceaux de lumière froide projetés sur le sol constituaient la seule source de luminosité de sa chambre en sous-sol. Dans la pénombre de la pièce, tout paraissait avoir été gravé dans de la pierre grise, humide et glacée, si bien qu'on avait l'impression de se trouver à l'intérieur d'une tombe. Nul ne connaîtrait jamais le véritable nom de cet homme, mais il serait plus tard connu comme le deuxième fissureur. Durant toutes ces heures, le deuxième fissureur avait repassé sa vie et, une fois qu'il se fut assuré que rien ne manquait, il contracta son corps engourdi à force d'être resté trop longtemps allongé, enfouit la main sous son oreiller et en tira un pistolet dont il plaça lentement le canon contre sa tempe. À cet instant, un texte d'intellectron émergea devant ses yeux. Intellectron.
Ne fais pas cela. Nous avons besoin de toi.
Deuxième fissureur. Mais Dieu, est-ce bien vous? Voilà un an que toutes les nuits je rêve de votre appel, mais depuis quelque temps je ne rêve plus. Je croyais être devenu incapable de rêver, mais de toute évidence il semblerait que ce ne soit pas le cas. Intellectron.
Ce n'est pas un rêve. Nous sommes en train de communiquer en simultané avec toi.
Deuxième fissureur. Bien. Tout est fini, alors. Je suis sûr qu'on ne rêve pas de l'autre côté.
As-tu besoin d'une preuve?
Une preuve qu'il n'y a aucun rêve de l'autre côté?
Une preuve que c'est réellement nous.
Soit, dites-moi quelque chose que j'ignore.
Tes poissons rouges sont morts.
Ah, ce n'est pas si grave. Nous nous retrouverons bientôt dans un lieu sans ténèbres.
Tu devrais tout de même aller voir. Tu étais si troublé ce matin que tu as jeté par inadvertance une cigarette à moitié consumée dans l'aquarium. La cigarette s'est dissoute dans l'eau et la nicotine a été fatale pour tes poissons.
Le deuxième fissureur ouvrit brusquement les yeux. Il posa son arme et roula hors de son lit. La léthargie de tantôt avait été balayée en un éclair. Il tâtonna pour trouver l'interrupteur de sa lampe de chevet et alla vérifier l'aquarium sur sa petite table. Les ventres blancs de ces cinq poissons télescopes flottaient à la surface de l'eau. Au milieu d'eux, surnageait un bout de cigarette à demi consumé.
Nous allons te fournir une seconde preuve. Evans t'a jadis envoyé un courriel crypté, mais le code a changé. Il est mort avant d'avoir eu le temps de te communiquer ce nouveau mot de passe et tu n'as jamais pu le lire. Nous te donnons à présent le code. Camel. La marque de la cigarette qui a empoisonné tes poissons.
Le deuxième fissureur se rua devant son ordinateur portable, et pendant que celui-ci s'allumait, son visage se couvrit de larmes. Dieu, mais Dieu, est-ce vraiment vous? Est-ce vraiment vous? Répéta-t-il en sanglotant. Quand l'ordinateur eut démarré, il ouvrit la pièce jointe du courriel grâce au programme de lecture interne de l'OTT. Une fenêtre demandant le mot de passe s'afficha. Quand le document s'ouvrit enfin, il n'avait déjà plus l'esprit suffisamment clair pour en lire le contenu. Il se mit à genoux et pleura en se prenant la tête entre les mains. « Mes dieux, c'est donc bien vous, mes dieux !» Ayant quelque peu repris son calme, il releva sa tête encore barbouillée de larmes. « L'attaque contre le guide lors de l'assemblée de l'organisation !» L'embuscade au canal de Panama. Nous n'avons été informés de rien. Pourquoi nous avoir trahis?
Nous avions peur de vous.
Est-ce parce que nos pensées ne sont pas transparentes? Cela ne fait rien. Tous ces pouvoirs que nous possédons et que vous ignorez, le mensonge, la ruse, le déguisement, la tromperie, nous les mettrons à votre service.
Nous ignorons si ce que vous dites est vrai. Admettons que cela le soit. Notre peur demeurera toujours. Votre Bible parle d'un animal appelé serpent. Si un serpent se présente à toi en jurant qu'il est là pour te servir, ne t'inspirera-t-il donc aucune peur, aucune haine?
S'il parle vrai, je dépasserai ma haine et ma peur. Je lui ferai confiance.
Voilà qui est difficile.
Bien sûr. Je sais que vous avez déjà été mordu une fois par le serpent. Depuis que la communication simultanée est possible entre nous, vous avez fourni des réponses extrêmement précises à nos questions. Rien ne vous obligeait à nous donner la majorité de ces informations. Par exemple, la manière dont vous avez reçu le premier message venu de la Terre, ou bien le processus de fabrication des intellectrons. Nous avions au début pris cette attitude comme une marque de confiance, mais il semble aujourd'hui que ce n'était qu'un fantasme. C'est une chose qui, encore maintenant, reste difficilement compréhensible pour nous. Nos échanges ne transitent pas par la pensée et ne s'affichent pas de façon clairement lisible. Pourquoi ne pas pouvoir effectuer une sélection des informations apportées à notre connaissance?
Cette possibilité existe, mais la quantité de ce qui peut être dissimulé est loin d'être aussi importante que ce que vous pouvez imaginer. En réalité, il existe dans notre monde d'autres formes de communication qui ne nécessitent pas l'affichage de la pensée, surtout à une époque de haute technologie. Mais la transparence de la pensée représente une part importante de nos habitudes socioculturelles. Cela doit être difficile à comprendre pour vous, tout comme il nous est difficile de vous comprendre.
J'ai du mal à imaginer que le mensonge et la ruse soient absents de votre monde.
Ils existent, mais de façon beaucoup plus rudimentaire que chez vous. Par exemple, dans les guerres de notre monde, les ennemis peuvent tenter des avancées en camouflage, mais si l'un des deux camps a un soupçon, il interroge directement l'ennemi et obtient généralement la vérité.
C'est incroyable.
Tout comme vous l'êtes pour nous. Il y a un livre sur ton étagère, Les Trois Royaumes.
Oui. Vous n'arrivez pas à le comprendre. Je me trompe?
Il nous est possible d'en comprendre quelques bribes, comme un lecteur néophyte qui feuilletterait un essai de mathématiques très pointu. Il devrait faire de grands efforts de réflexion et avoir beaucoup d'imagination pour en saisir ne serait-ce qu'une partie.
En effet, ce livre est un bon exemple du niveau que peuvent atteindre les stratégies et les intrigues militaires humaines.
Mais grâce à nos intellectrons, le monde humain nous est transparent.
Hormis nos pensées.
Oui, les intellectrons ne lisent pas dans vos pensées.
Vous êtes certainement au courant du programme Colmateur.
Nous en savons plus que tu n'en sais toi-même. Le programme sera bientôt lancé. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus à toi.
Que pensez-vous de ce projet?
Nous avons toujours la même impression, la même que lorsque tu vois un serpent.
Mais le serpent de la Bible a aidé les hommes à accéder à la connaissance. Le programme Colmateur va édifier contre vous un ou plusieurs labyrinthes sournois et dangereux. Laissez-nous vous aider à vous frayer une voie pour sortir de ces labyrinthes.
Cette absence de transparence mentale ne fait que renforcer notre détermination à anéantir l'espèce humaine. Aidez-nous à détruire l'humanité, et nous vous détruirons en dernier.
Mais Dieu, vous exprimer ainsi pose problème. De toute évidence, c'est une conséquence de votre habitude à communiquer de façon transparente, mais dans notre monde, même lorsque nous exprimons nos véritables pensées, nous essayons de le faire d'une manière qui soit plus lisse et plus douce. Par exemple, même si ce que vous venez de dire rejoint en effet l'idéal ultime de l'OTT, le présenter de façon trop directe risquerait de soulever des réticences chez certains de nos camarades et d'engendrer des conséquences imprévisibles. Naturellement, il ne vous sera sans doute jamais possible d'apprendre à vous exprimer autrement.
C'est précisément l'expression détournée de la pensée chez les humains, particulièrement dans vos œuvres littéraires, qui nous semble inextricablement tortueuse. D'après nos informations, l'OTT serait d'ailleurs à présent au bord de l'implosion.
Tout ça, c'est parce que vous nous avez abandonnés. Les deux dernières attaques se sont révélées terribles. La faction rédemptoriste s'est disloquée et seuls les adventistes garantissent encore l'existence de l'organisation. Cela, vous le savez certainement, mais c'est sur les esprits que le coup le plus fatal a été porté. À cause de cet abandon, la dévotion de nos camarades a été mise à mal. Pour maintenir cette dévotion, l'OTT a urgemment besoin de votre aide, mais Dieu...
Nous ne pouvons pas vous transmettre de technologie.
Ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez vous contenter de rétablir la transmission des informations que vous nous faisiez autrefois parvenir grâce aux intellectrons.
Naturellement. Cependant, la priorité de l'OTT sera de mener à bien la mission capitale dont tu viens de prendre connaissance. Nous en avions confié la charge à Evans avant sa mort, mais c'est toi qui l'avais désigné pour l'exécuter. Toutefois, sans le code, tu n'as pas pu en connaître la teneur.
Ce fut seulement alors que le deuxième fissureur se rappela le message qu'il venait de décoder sur son ordinateur. Il le lut en détail.
C'est une mission facile à réaliser, n'est-ce pas?
Elle n'est pas très difficile, mais est-ce vraiment bien essentiel?
Ça l'était jusqu'à peu, mais en raison du programme collimateur, c'est devenu absolument capital.
Pourquoi?
Evans savait pourquoi, mais il n'a manifestement pas souhaité vous en parler. Il a eu raison et c'est une chance qu'il ne l'ait pas fait. Nous ne pouvons pas te dire pourquoi maintenant.
Mais Dieu, vous venez de dissimuler une information. C'est un grand progrès.
Evans nous a beaucoup appris, mais nous n'en sommes encore qu'au tout début. Pour reprendre ces termes, nous sommes encore au stade d'un enfant humain de 5 ans. Pour te donner un exemple, les instructions qu'il t'a transmises contiennent des ruses que nous sommes incapables d'apprendre.
Vous voulez parler de cette exigence? Ne pas révéler qu'il s'agit d'une opération de l'OTT pour éviter d'attirer l'attention? Eh bien, si la cible est si importante, c'est un impératif très naturel.
De notre point de vue, c'est une ruse complexe.
Bien. Je ferai selon les volontés d'Evans. Mais Dieu, nous vous apporterons la preuve de notre dévotion. Quelque part dans l'océan tumultueux des informations de l'Internet se trouvait un recoin perdu. Et dans ce recoin, un autre recoin encore plus perdu. Et dans le recoin de ce recoin, le recoin d'un recoin. Et au plus profond de ce recoin, un monde virtuel ressuscita. Sous cette aube glaciale et mystérieuse ne se dressait aucune pyramide, aucun siège des Nations Unies, ni aucun pendule géant. Rien qu'une plaine déserte et dure, s'étendant à perte de vue, comme une gigantesque dalle de métal froid. Le roi Wen des Chu s'approcha depuis l'horizon, vêtu d'une longue robe en haillons, elle-même enveloppée dans une fourrure de bête sale. Il était armé d'une épée en bronze et son visage paraissait aussi sale et ridé que la fourrure qu'il portait sur le dos, mais ses yeux étaient vifs et reflétaient la lueur de l'aurore.
« Il y a quelqu'un ? »
cria-t-il.
« Quelqu'un ? Quelqu'un ?»
La voix du roi Wen fut aussitôt engloutie par l'infini néant de la plaine. Il appela encore un moment, puis, de guerre lasse, il finit par s'asseoir sur le sol et accéléra le temps, contemplant les soleils se métamorphoser en étoiles volantes et les étoiles volantes redevenir soleils, admirant le balancier de pendules des soleils des aires régulières dans les nues, les journées blanches et les nuits noires des aires chaotiques qui faisaient du monde une scène de théâtre vide dont les projecteurs seraient devenus fous. Rien ne vint bouleverser l'écoulement du temps. Ne demeurait que cette éternelle plaine désolée. 3 étoiles volantes entamèrent une danse dans le ciel, et durant l'hiver polaire qu'elles provoquèrent, le roi Wen se changea en pilier de glace. Mais très vite, une étoile volante se changea en soleil, et cette gigantesque soucoupe en fusion fusa dans le ciel. Le roi Wen fondit, et son corps s'embrasa cette fois en une colonne de feu, lâchant un ultime et long soupir avant d'être entièrement consumé. Les regards graves de 30 officiers des armées de terre, de l'air et de la marine étaient rivés sur l'insigne brodé sur les rideaux rouges sombres. Une étoile argentée d'où s'échappaient 4 rayons. À côté de ces rayons, de la forme de 4 épées effilées, figuraient les sinogrammes des chiffres 8 et 1, l'écusson de l'armée spatiale chinoise. L'amiral Chang Weizi fit signe à tout le monde de s'asseoir. Après avoir posé son képi sur la table de réunion, il commença. La cérémonie officielle de fondation de l'armée spatiale aura lieu demain après-midi. Vos uniformes et vos épaulettes ne vous seront distribués qu'à ce moment-là. Cependant, camarades, nous appartenons dès maintenant à une seule et même unité. Tous s'observèrent et remarquèrent que parmi les 30 officiers, 15 portaient étrangement des uniformes de la marine, 9 de l'armée de l'air et 6 de l'armée de terre. Quand leur attention se porta à nouveau vers Chang Weizi, ils s'efforcèrent de ne pas trahir leur perplexité. Chang Weizi lâcha dans un sourire. « Étrange contingent, n'est-ce pas ? Je vous demande de bien vouloir ne pas appréhender le futur de la flotte spatiale à la lumière de la composition actuelle des programmes d'aéronautique. Quand leur heure viendra, les vaisseaux spatiaux ont de fortes chances d'être encore plus grands que les porte-avions actuels et leurs équipages encore plus conséquents. Les guerres spatiales du futur auront pour plateforme de combat des bâtiments de grand tonnage et de haute endurance, et les méthodes de combat seront plus proches des batailles navales qu'aériennes. La différence, c'est qu'au lieu d'un océan en deux dimensions, le champ de bataille sera un espace tridimensionnel. Par conséquent, les forces spatiales à venir s'appuieront principalement sur les forces navales. Je suis conscient que l'on considérait autrefois que l'armée spatiale devait relever des compétences des forces aériennes. C'est pourquoi nos camarades de la marine ne sont pas encore bien préparés psychologiquement. Il faudra pourtant vous adapter le plus rapidement possible. Amiral, nous ne nous attendions pas à cette décision, dit Chang Beiyei. À ses côtés, Wu Yu demeurait assis, parfaitement immobile. Mais Chang Beiyei sentait que quelque chose s'était éteint dans les yeux fixes du commandant. Chang Weizi hocha la tête. En réalité, la distance entre forces navales et spatiales est moins grande qu'on le pense. Pourquoi parle-t-on de vaisseaux et non d'avions spatiaux? Pourquoi parle-t-on de flotte et non d'escadron? Dans les systèmes humains de représentation, l'espace et l'océan ont toujours été associés. L'atmosphère se détendit quelque peu dans la pièce et l'amiral Chang Weizi reprit. « Camarades, à l'heure qu'il est, cette nouvelle composante des forces armées nationales ne compte pour seul membre que les 31 d'entre nous qui sommes réunis ici aujourd'hui. Pour ce qui est de la future flotte spatiale, le travail de recherche fondamentale est actuellement en train d'être mené par des scientifiques appartenant à différentes disciplines. Une énergie particulière est consacrée à la technologie de l'ascenseur spatial et à la conception de moteurs atomiques pour des vaisseaux de grande taille. Mais ces opérations ne sont pas directement associées au travail de l'armée spatiale qu'il nous faudra mener. Notre tâche consiste, dans un premier temps, à établir le cadre théorique d'une guerre spatiale. Nos connaissances actuelles sur ce type de bataille sont proches de zéro. Il s'agit donc d'une mission délicate, mais essentielle, car l'édification future d'une flotte spatiale reposera sur ce cadre théorique. Aussi, à ce premier stade, l'armée spatiale s'apparentera davantage à une académie de sciences militaires. Et la première tâche à laquelle nous devrons tous nous atteler sera la constitution de cette académie. Notre prochaine étape consistera à recruter un grand nombre de scientifiques et de chercheurs. Chang Weizi se leva. Il s'avança jusque sous l'écusson, puis il se retourna vers les officiers de l'armée spatiale et prononça ces paroles que chacun garderait en mémoire pour le reste de son existence. « Camarades, la fondation de l'armée spatiale prendra du temps. D'après nos premières estimations, rien que les recherches scientifiques fondamentales prendront au minimum 50 ans pour assimiler les technologies nécessaires à un voyage interstellaire à grande échelle. Et il faudra encore au moins un siècle avant de pouvoir passer à l'étape de leur application concrète. Pour ce qui est ensuite de la construction effective d'une flotte spatiale à l'échelle voulue, les prédictions les plus optimistes parlent d'un siècle et demi. Ce qui veut donc dire que, de sa création jusqu'à la formation d'une force de combat efficace, 3 siècles seront nécessaires. Camarades, je pense que vous savez déjà ce que cela signifie. Aucun de nous ici présents n'aura la chance d'aller dans l'espace, et encore moins de voir notre flotte spatiale de notre vivant, peut-être même pas la moindre maquette crédible d'un vaisseau spatial de combat. La première génération d'officiers et d'équipages de la flotte spatiale naîtra dans 2 siècles. Et 2 siècles et demi passeront encore avant que la flotte terrienne ne se retrouve face aux envahisseurs extraterrestres. Ceux qui seront alors à bord de ces vaisseaux appartiendront à la 10e et quelques générations de nos petits-enfants. Les militaires sombrèrent dans un profond silence. La route du temps couleur de plomb s'ouvrait lentement devant eux, sans qu'ils puissent distinguer l'autre bout, rendu flou par le brouillard de l'avenir, dans lequel ils ne parvenaient à voir chatoyer que des flammes et la lueur du sang. Jamais la nature éphémère de la vie humaine ne les avait autant fait souffrir. Leurs cœurs s'envolèrent par-delà la voûte du temps pour rejoindre la 10e génération de leurs descendants et s'abîmèrent avec eux dans le sang et le feu de l'espace glacial, là où se rassembleraient au jour dernier les âmes de tous les soldats. À peine rentré dans son appartement, Miao Fukuyan invita comme d'habitude Chang Yuan Chao et Yang Jinwen à boire un verre. Sa jeune maîtresse sichuanaise avait préparé une variété de plats copieux. Une fois l'alcool servi, il raconta ce qui lui était arrivé le matin même lorsqu'il était allé retirer de l'argent à la banque. « Vous n'en avez pas entendu parler ? Des gens sont morts piétinés devant la banque. Il y a 3 couches de macabées devant les comptoirs, » dit Miao Fukuyan. « Et ton argent ?» demanda Chang Yuan Chao. « J'ai pu en retirer une partie, le reste a été gelé. C'est scandaleux. » « Un seul cheveu de ton trésor, ça restera toujours plus que nos économies à tous !» s'amusa Chang Yuan Chao. Yang Jinwen prit la parole. « Ils l'ont dit aux infos, une fois que le mouvement de panique sera retombé, le gouvernement dégèlera peu à peu les comptes. Peut-être juste un pourcentage au début, mais tôt ou tard, la situation redeviendra normale. »« Espérons !» soupira Chang Yuan Chao. Le gouvernement a commis l'erreur d'annoncer que nous étions en guerre. C'est le sauve-qui-peut général. Les gens ne pensent qu'à leurs pommes. Qui peut bien se préoccuper maintenant de ce qui se passera dans 400 ans quand l'humanité devra se défendre? Et encore, ce n'est pas le plus gros problème, renchérit Yang Jinwen. Ça fait longtemps que je dis que le taux d'épargne en Chine est une mine sur laquelle on va finir par sauter. Eh bien, j'avais raison, non? Le taux d'épargne explose. La sécurité sociale s'effondre. Ce sont toutes les économies que les gens ordinaires ont placées dans les banques qui sont devenues un problème. Au premier vent contraire, c'est l'hystérie collective. Chang Yuan Chao demanda à Yang Jinwen. Que penses-tu que ça va donner, cette économie de guerre? C'est trop brutal. À mon avis, personne ne peut avoir aujourd'hui un avis précis sur la question. Les nouvelles politiques économiques sont encore en train d'être mises en œuvre, mais on peut être sûr d'une chose. Les jours difficiles sont devant nous. Les jours difficiles, mon cul. À notre âge, on en a vu d'autres. Dans le pire des cas, ce sera comme dans les années 1960, dit Miao Fukuyan. C'est simplement un peu triste pour nos gosses, lâcha Chang Yuan Chao en vidant son verre d'alcool d'un seul trait. À cet instant, un jingle attira l'attention des 3 hommes vers la télévision. C'était un son devenu familier ces derniers temps et qui avait ce pouvoir de faire cesser séance tenante toute activité. L'alerte du flash info, qui pouvait interrompre à tout moment la grille des programmes. Les 3 sexagénaires se rappelaient encore qu'au siècle dernier, les chaînes de radio et de télévision utilisaient fréquemment ce dispositif. Mais depuis les années 1980 et la période de paix et de prospérité qui leur avait succédé, ils n'étaient plus en usage. Le flash info commença.
Selon notre correspondant à New York, au siège du secrétariat des Nations Unies, lors d'une conférence de presse qui vient de se terminer, le porte-parole de l'ONU a annoncé qu'une session extraordinaire de l'Assemblée générale serait convoquée pour discuter du problème de l'évasionnisme. La session réunira les membres permanents du Conseil de défense planétaire et travaillera à ce qu'un consensus général et un cadre juridique approprié puissent être trouvés à l'échelle de la communauté internationale sur la conduite à adopter vis-à-vis des comportements évasionnistes dans la société. Faisons un bref retour en arrière sur les facteurs ayant favorisé l'émergence et l'expansion de la doctrine évasionniste. Rappelons que l'évasionnisme est né dans la foulée de la crise trisolarienne. Dans une situation où les sciences de pointe humaines se retrouvent verrouillées, Il est absurde de planifier un système de protection pour la Terre et le système solaire en prévision des 450 ans à venir. Étant donné le niveau technologique que les humains pourraient être en mesure d'atteindre en 4 siècles, l'objectif le plus réaliste serait de bâtir des vaisseaux interstellaires, de manière à ce qu'une petite portion de l'humanité puisse s'enfuir dans l'espace et éviter ainsi l'extinction totale de la civilisation humaine. En ce qui concerne la destination de la fuite, les évasionnistes évoquent 3 possibilités. La première est celle d'un nouveau monde, en d'autres termes un endroit dans l'espace où l'humanité pourrait s'installer et survivre. C'est sans aucun doute l'option idéale, mais elle nécessite une vitesse de voyage extrêmement élevée et un voyage interstellaire très long. Au vu du niveau technologique que l'humanité semble pouvoir atteindre en cette période de crise, cela paraît difficilement réalisable. La deuxième possibilité est celle de la création d'une civilisation du vaisseau spatial, c'est-à-dire que l'humanité en fuite fasse du vaisseau dans lequel elle aura embarqué sa demeure éternelle pour assurer sa survie au cours de son interminable odyssée interstellaire. Cette option se confronte à des difficultés similaires à celles du Nouveau Monde, à la différence près que le problème repose ici sur la création d'un écosystème autorégénératif. Ce genre d'écosystème clos susceptible de fonctionner en boucle pendant plusieurs générations dépasse pour l'instant de loin les capacités technologiques humaines. La troisième possibilité est celle d'un refuge temporaire. Une fois que la civilisation trisolarienne aura pris possession de la Terre, l'humanité en fuite pourra entretenir des échanges actifs avec la société trisolarienne. Et le jour où les politiques envers les derniers représentants de l'humanité seront normalisées, ceux-ci finiront par revenir dans le système solaire et cohabiteront à une échelle plus réduite avec les trisolariens. L'option du refuge temporaire est généralement considérée par les évasionnistes comme étant la stratégie la plus réaliste, mais ces variables sont trop nombreuses. Peu de temps après la naissance du mouvement évasionniste, les reportages de nombreux médias du monde entier ont révélé que les 2 grandes puissances disposant d'une technologie spatiale avancée, les États-Unis et la Russie, avaient déjà commencé en secret à travailler sur des programmes d'évasion spatiale. Bien que les gouvernements américains et russes aient immédiatement nié l'existence de tels projets, cette nouvelle a provoqué un immense tollé dans la communauté internationale et initié le mouvement dit de « mise en commun des technologies ». Lors de la 3e session extraordinaire de l'ONU, de nombreux pays en voie de développement ont exigé que les États-Unis, la Russie, le Japon et l'Union européenne rendent publics leurs progrès technologiques et mettent gratuitement toutes leurs technologies avancées, notamment aérospatiales, à la disposition de l'ensemble de la communauté internationale, de sorte que tous les pays et toutes les nations du monde soient également armés pour faire face à la crise trisolarienne. Les porte-parole du mouvement de mise en commun des technologies ont cité en exemple un précédent historique. Au début du siècle, de grandes sociétés pharmaceutiques européennes vendaient à des prix exorbitants des traitements de pointe contre le sida à des pays africains particulièrement touchés par la maladie. Cette injustice a donné lieu à un procès très médiatisé. Face à la situation préoccupante de la propagation rapide de la maladie en Afrique et sous la très forte pression de l'opinion publique, les sociétés pharmaceutiques ont décidé de retirer leur dépôt de brevets avant même le début du procès. Face à la crise ultime à laquelle le monde se trouve aujourd'hui confronté, la mise à disposition gratuite de la technologie aurait été le symbole que les pays les plus développés ne se soustrayaient pas à leurs responsabilités envers l'humanité tout entière. Le mouvement de mise en commun des technologies a bien sûr reçu le soutien unanime des pays en voie de développement, et même celui de certains États membres de l'Union européenne, mais cette proposition n'a pas été adoptée par le Conseil de défense planétaire, institution placée sous l'égide des Nations unies. Plus tard, la Chine et la Russie ont lancé lors de la 5e session extraordinaire de l'ONU une nouvelle proposition, une mise en commun limitée des technologies, soit des progrès technologiques entre les différents membres permanents du CDP. Mais cette initiative a été aussitôt rejetée par les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont mis leur veto. Le gouvernement américain a déclaré que toute forme de mise en commun technologique était irréaliste et naïve et que, dans les circonstances actuelles, la sécurité nationale restait une priorité, juste derrière la défense de la planète. L'échec de ces propositions a provoqué une scission entre les différentes puissances et entraîné la faillite du programme de la flotte terrienne unie. Les conséquences de l'échec essuyé par le mouvement de mise en commun des technologies ont été considérables et les populations ont pris conscience que, même face à une menace aussi destructrice que pouvait l'être la crise trisolarienne, l'unité de l'espèce humaine était encore un rêve lointain. Le mouvement de mise en commun des technologies avait été initié par des défenseurs de la doctrine évasionniste. C'est uniquement en parvenant à un consensus sur la manière dont doit être réglé le problème de l'idéologie évasionniste que le fossé qui s'est déjà creusé entre pays développés et pays en voie de développement sera partiellement comblé. Voici donc dans quel contexte s'ouvre cette session extraordinaire.
Tiens, ça me fait penser, dit Miao Fukuyan. Et cette affaire dont je vous ai parlé par téléphone il y a quelques jours, c'était crédible, du coup. De quoi tu parles? Tu sais bien le fond d'évasion. Enfin, Lao Miao, comment peux-tu croire à quelque chose comme ça? Tu n'es pourtant pas si naïf, lâcha Yang Jinwen sur un ton désapprobateur. Non, non. Miao Fukuyan regarda ses deux compères en baissant la voix. Le jeune s'appelle Shi Xiaoming. Je me suis renseigné auprès de plusieurs sources sur son compte. Son paternel travaille au département de sécurité du Conseil de défense planétaire. Il était à l'origine membre de la brigade urbaine antiterroriste et à présent c'est une pointure du CDP. Il s'occupe personnellement de la lutte contre l'OTT. J'ai le numéro de téléphone de son bureau. Vérifiez vous-même. Chang Yuanchao et Yang Jinwen échangèrent un regard. Yang Jinwen se mit à rire, prit la bouteille d'alcool et remplit son verre. Et alors, même si c'est vrai, s'il y avait vraiment un fonds d'évasion, comme tu dis, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Tu penses que j'ai les moyens? C'est un truc pour les riches comme toi, ça, Lao Miao, renchérit Chang Yuanchao, le regard embué d'alcool. Yang Jinwen s'emporta brusquement. Eh ben, si c'est vrai, je dis que ce sont des ordures au gouvernement. Tant qu'à fuir, autant laisser fuir les génies des prochaines générations. Bon sang, à quoi ça rimerait de ne laisser partir que les riches? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Miao Fukuyan pointa Yang Jinwen du doigt en souriant. On a compris, Lao Yang. Ne tourne pas autour du pot, dis tout de suite qu'on devrait plutôt laisser partir les tiens de descendants, et on n'en parle plus, hein? Voyons voir, ton fils et ta belle-fille sont docteurs en sciences. En voilà des génies, tout comme le seront certainement tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Il leva son verre et hocha la tête. Mais bon, puisqu'on en parle, tous les hommes devraient être traités sur un pied d'égalité, non? Il n'y a pas de raison que, comment dire, les génies puissent avoir droit à un repas gratuit. Qu'est-ce que tu veux dire? Payer, quand on veut acheter quelque chose, c'est dans l'ordre des choses. Je paierai pour assurer la descendance de la famille Miao. Ce serait naturel, non? Ça s'achèterait donc avec de l'argent? Est-ce que le but de la fuite ne sera pas d'assurer la continuité de l'espèce humaine? Les individus sélectionnés devront naturellement être des élites de notre civilisation. Envoyer une bande de richards dans le cosmos, je ne vois pas bien l'intérêt. Le sourire forcé de Miao Fukuyan s'évanouit. Il pointa Yang Jinwen de son doigt épais en disant: « J'ai toujours su que tu avais du mépris pour moi, parce que peu importe la somme sur mon compte en banque, à tes yeux je reste un nabab. Je me trompe ?»« Que croyais-tu être d'autre ?» lui lança Yang Jinwen sous l'emprise de l'alcool. Miao Fukuyan tapa du poing sur la table et se leva d'un bond. « Yang Jinwen, je vais te dire, les demeurés dans ton genre, moi je les... » Chang Yuanchao frappa à son tour violemment sur la table et son écho retentit d'une octave plus haut que le coup porté par Miao Fukuyan. Deux de leurs trois verres se renversèrent. Il fit même lâcher un cri d'effroi à la jeune Sichuanaise qui apportait les plats. Chang Yuanchao pointa respectivement les deux hommes du doigt. « Bien, bien. Toi, tu es un génie de l'humanité, et toi, tu es un riche. Il ne reste plus que moi. Et je suis quoi, moi, bordel ? Un pauvre ouvrier qui a bien mérité que sa descendance s'éteigne, c'est ça ? » Il sentit monter en lui l'irrépressible envie de renverser la table, mais il finit par se contrôler. Il se leva et partit en leur tournant le dos. Yang Jinwen lui emboîta le pas.